Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 36. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Greg Caradoni et Cyprien Sini.
C'est la Dream Team ce soir qui vous accompagne jusqu'à 20h. Je vous ai même pas dit bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bienvenue chez vous, toute l'équipe qui nous accompagne jusqu'à 20h pour défaire le monde. Vous connaissez la boutique, vous réagissez, bien sûr, vous commentez, le compte Twitter à disposition, la page Facebook du rendez-vous. Il est 19h17, Cyprien Sini, on traîne pas. Voici le sommaire.
Tout, vous saurez tout sur l'apéro avec la réouverture des terrasses. C'est la star de la semaine. Vous êtes peut-être même en train de nous écouter en buvant un petit verre. On a donc décidé d'enquêter sur l'apéritif, ce pilier de notre existence. La mise en place d'un pass sanitaire pour lutter contre le Covid a alimenté débats et polémiques. Et si finalement, c'était pas si révolutionnaire que ça, un membre de l'Académie de médecine allumera la lumière sur le sujet. Le loser, le grand perdant de la semaine, et ce soir, Marie, l'article de la discorde.
L'article 24 de la loi de sécurité globale, mille fois réécrit, des heures de débat pour finir à la poubelle du Conseil constitutionnel.
Le billet retour quand on vient sur une info qui a fait la une et qui a disparu de l'actualité. Et cette semaine, Brice, vous allez aux nouvelles d'un vieux fiasco français, l'EPR de Flamanville.
Oui, un fiasco à Flamanville dans la Manche. Pourtant, l'EPR a réussi à rebondir dans le reste du monde.
D'ici 20h, bien entendu, vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, un super projet de comédie musicale dont on vous avait déjà parlé ici et qui est sur le point de se concrétiser. Et bien entendu, vers 19h40, le jeu a gagné 2000 euros. Oui, 2000 euros pour refaire votre déco. On défait le monde, saison 2, épisode 36.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
Défait le monde dans RTL Soir.
2000 euros.
C'est énorme.
Oui, 2000 euros. On dirait Denis Brogniart dans Koh-Lanta, c'est formidable.
Souhaitez-moi un avenir comme celui de Denis Brogniart, je le prends.
On y va, on surfe de la semaine avec Cyprien.
Oh bah quelle semaine les amis, ce vent de liberté, terrasse, boutique, ciné. J'espère que vous avez pu un peu en profiter. En tout cas, il y en a un, il a pas raté le coche, hein. Il a pas raté une occasion de se déconfiner, c'est évidemment...
La vie doit être plus forte.
Papy et mamie, aillent chercher les enfants.
Réunion au Penspace couloir.
Pas de quoi s'appeler.
C'est Jeannot, Jean Castex. Dans tous les bons coups cette semaine, il s'est fait toutes les options de réouverture. Jeannot, c'est le all-inclusive du déconfinement. Comme dans une télé-réalité, on l'a suivi partout. Ça commence dès mercredi matin aux aurores.
Le Premier ministre Jean Castex a tablé autour d'un café.
Petit café du matin en terrasse, l'après-midi.
Jean Castex, lui, est dans un cinéma.
Il se fait une petite toile, tranquillou pépouze. D'ailleurs, il a tweeté sur le film en disant que c'était génial, alors que la séance n'était même pas encore terminée. Il avait peut-être déjà vu le film. Bref, le lendemain matin...
Il est allé dans des commerces à Blois, Jean Castex, des commerces de vêtements, de décorations.
Petite matinée shopping, hein, quelques caleçons, une paire de chaussettes et un miroir dans la boutique de déco. Mais les emplettes, ça creuse, alors...
Le Premier ministre qui a déjeuné en terrasse à Paris, dans le 4e arrondissement de Paris, au Sully.
Un tartare frite en terrasse au Sully pour Jean Castex, il est avec Alain Grisé là. Et derrière, petit kiff hier soir, hein, histoire de finir en beauté, il s'est fait le train de nuit Paris-Nice et pas n'importe comment.
Le Premier ministre est en première à 39 euros.
Et on se fait payer la première à 39 euros, on se refuse rien, Matignon, et ouais, il vit sa meilleure vie, il kiffe la life à Donf, Jeannot. Il a même joué au chef de bord dans le train. Écoutez bien.
Messieurs, exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. C'est un honneur. Et un vrai bonheur.
Ah bah oui, on voit que c'est le bonheur, hein, en pyjama dans la couchette, là. Non, ça fait plaisir à voir. Ça fait un an que le mec nous annonce des galères, là, il se fait plaisir, quoi. Sinon, un autre qui a dû être content cette semaine, c'est l'autre moment fort, le retour de Benzema en équipe de France. Et là, attention, petite leçon d'analyse footballistique de l'ami Pascal Pro qui nous écoute, sûrement, on l'embrasse. 2017, hashtag expertise.
Karim Benzema ne reviendra jamais tant que Didier Deschamps sera là. Deschamps est un dur, il ne transige pas, il ne discute pas, il ne compose pas. Quand c'est non, et quand c'est fini, c'est fini.
Oui, avec Deschamps, je le connais bien, quand c'est fini, c'est fini, c'est un têtu Deschamps. Mais le meilleur, C'est maintenant, c'est après la sélection de Benzema. Hashtag expertise.
C'est vraiment pour des raisons sportives hein, qu'il le prend. Deschamps, c'est un pragmatique.
Mais oui, je connais bien en fait. Deschamps, c'est un pragmatique. Oui, mais alors pas n'importe quelle veste, une veste italienne à carreaux quand même. Enfin, un mot d'actu international avec la Chine hein, qui a décidé d'accélérer sa campagne de vaccination. Et alors eux, quand ils accélèrent, mais alors vraiment, hein, 15 millions de vaccinés par jour cette semaine. Ils te vaccinent la France en même pas une semaine. Et surtout, pour inciter la population à se faire vacciner, bah, ce clip avec des médecins qui dansent en faisant semblant de se piquer sur ce rythme entraînant. C'est le tube du printemps et ça marche visiblement. Allez, dis-moi la semaine prochaine.
Oh, il est sur le top 3 de la saison. Celui-là.
Encore
magnifique.
Ah, oui, de voilà, mieux en pleine forme. Hein.
Castex Pro et l'Italiste et Canon, on a même un petit son en bonus, non?
RTL Soir jusqu'à 20h.
Mesdames, messieurs, ce n'est pas votre Premier ministre qui vous parle. Vous avez bien embarqué à bord d'On défait le monde. Toute l'équipe vous souhaite un bon voyage.
On défait le monde.
Oh, formidable.
Et on n'est pas en première, non? On est encore au-dessus.
19h23.
RTL Soir, on défait le monde.
Merci à vous tous d'être là, vous réagissez à la page Facebook de l'émission, le compte Twitter, la grosse info du soir, elle concerne, vous êtes fait plaisir, l'apéro.
Et oui, c'est ça, être sérieux sans se prendre au sérieux. Toute la semaine, on n'a pas arrêté de parler d'apéro en terrasse, en plus c'est un peu l'heure de l'apéro. Bah, du coup, on a voulu enquêter sérieusement sur le sujet, pourquoi, comment, d'où vient ce concept. Et en toute sobriété, Laurent, bah, vous êtes porté volontaire pour nous apprendre des choses.
Hein. Oui, j'espère que vous allez boire mes paroles. Je voulais démarrer par une fake news. Alors, contrairement à ce que l'on peut imaginer, lire dans certains articles sur Internet, ce n'est absolument pas dans l'Antiquité que l'apéritif a été inventé. Non, ce ne sont pas les Romains qui ont été les premiers consommateurs, même s'ils avaient une pratique, un rite, la libation. En clair, on levait son verre à la santé des dieux, on versait quelques gouttes de vin par terre en rendant hommage à une divinité. Donc, on est loin de l'apéro que l'on connaît tous.
Et alors, l'apéritif, comme on connaît, il existe depuis combien de temps en fait ?
Le vrai apéritif apparaît vraiment au XVIIIe siècle, hein, au siècle des Lumières, notamment dans le milieu médical. Alors le mot n'a pas été choisi au hasard. Didier Nourisson est professeur d'histoire contemporaine et auteur du livre Cru et cuite, histoire du buveur aux éditions Perrin.
Ça vient du latin apérire, qui veut dire ouvrir. Donc c'était un apéro qui ouvrait non seulement vers le repas, mais qui ouvrait les pores de la peau, pensait-on, de manière à donner une bonne santé.
Le premier apéritif a été fabriqué à Turin en Italie où l'on parlait la langue allemande. Il s'appelait vermouth, qui signifie absinthe. Vous voyez, chez nos voisins d'Outre-Rhin.
Un vermouth, comme ça, ça existe encore. Ouais.
L'apéritif va arriver en France par la Savoie, qui n'était pas encore française vers 1846. Elle appartenait au roi de Piémont. Et petit à petit, au fil du 19e siècle, il va connaître l'apéro, sa plus belle expression à Paris. C'est la ville lumière, c'est la ville aussi des débits de boissons, des terrasses. Les cafés étaient plutôt sombres. Ils vont s'ouvrir sur la rue. On va installer les terrasses. Les bourgeois vont s'exhiber en prenant leur apéritif. C'est un marqueur social, mais la suite va évoluer.
À la fin du 19e siècle, le niveau de vie s'élevant, de plus en plus de gens du peuple vont se mettre à boire des apéritifs. Et ça, il semblerait que la haute bourgeoisie, la bonne société, ça ne plaise pas trop. Alors, on va inventer une nouvelle forme, une nouvelle manière de boire qui est le cocktail.
Une mode pour se différencier du bas-peuple, le cocktail, un mot anglais, amené par le prince de Galles, futur roi d'Angleterre à la mort de la reine Victoria, c'est-à-dire Édouard VII. Il a vécu à Paris, a beaucoup aimé la vie parisienne. Et ce qui marque les catégories, c'est vraiment la nature et le contenu de l'apéro. Écoutez l'historien Didier Nourisson.
Les classes populaires prenant plutôt un jaune, bien tassé et assez rapidement, tandis que les classes huppées préférant les whisky, les apéritifs un peu exotiques et beaucoup plus chers.
Voilà, des différences très claires entre les catégories sociales.
Les cahuètes, ça vient d'où ?
Ah, très bonne question, Stéphane. Bon, un apéritif est constitué à 52% de salé, selon une récente étude IFOP.
Alors ça m'étonne, hein, votre histoire, là. Il y a des gens qui prennent du sucré à l'apéro.
52%, récente étude IFOP. Dans les années 1920-1930, en fait, l'empire colonial français est prospère, bien installé. On va se mettre à planter des cacahuètes, les exporter jusqu'à la métropole. Et c'est vrai qu'elle donne une saveur salée à l'apéritif. Comme vous savez, elle donne l'envie de consommer plus. Mais après ce phénomène, n'a pas toujours été bien vu, forcément. Il y a des inquiétudes au niveau médical. Dès le début du XXe siècle, des médecins s'inquiètent de ce qu'ils appellent l'alcoolisme mondain, fléau du siècle. On arrive à des taux d'alcool dans les verres à 40-45 degrés.
Et alors, le fait de trinquer, comment c'est venu ? Parce que, alors, il y a des histoires comme quoi c'était un moyen de faire voir s'il y avait du poison dans le verre de l'autre en faisant se balader.
En cognant les verres. Ouais, plusieurs historiens me l'ont confié, Cyprien. Cela fait partie des légendes. On n'a pas de preuve formelle que cela a existé.
Je suis sûr que c'était vrai, ça.
Et le fait de cogner les verres trinquer, bah, c'était surtout pour célébrer la fraternité, saluer un accord commercial, familial et non se protéger d'un danger. Et certains peut-être aujourd'hui disent, vous savez, chin-chin au moment de cogner les verres. Alors on a une hypothèse pour l'historien Didier Nourisson.
On pense que ça vient du 19e siècle également, au moment où les troupes françaises attaquent Pékin et s'emparent du palais d'été des empereurs chinois. À ce moment-là, eh bien, il y a une espèce de chinoiserie qui s'impose en France. On entend ce mot chin-chin sans lui donner particulièrement de sens. Hein.
Et alors aujourd'hui, Laurent, ça représente quoi l'apéritif ?
Ben, comme vous le savez, Stéphane, c'est un moment de sociabilité, forcément, quand vous vous retrouvez en famille avec des amis en terrasse, mais pas que. Pour le sociologue Jean-Pierre Poulain.
C'est un lieu dans lequel il se passe quelque chose. On se donne à voir, on se met en scène, on observe aussi. C'est un lieu où on devient voyeur et où on se montre. L'apéro Zoom, c'est pas le vrai apéro. Ah ben non. Le vrai apéro, c'est quand même pouvoir taper sur l'épaule des copains, c'est pouvoir accueillir quelqu'un qui est en train de passer et l'interpeller, l'inviter à se joindre à nous. C'est s'engueuler, c'est se réjouir, c'est discuter du match. Et c'est quelque chose qui est la vraie vie.
Ouais, une vraie vie qui a repris doucement mercredi. Un Français sur deux prend l'apéritif une fois par semaine selon un sondage IFOP. Et on rappelle la règle, à consommer avec modération.
Sauf les cacahuètes.
Sauf les cacahuètes. Hein,
et on
ça, c'est un volant. Direct. 19h28.
À suivre dans On défait le monde.
Votre première info pour briller au dîner. Vous en saurez plus sur le pass sanitaire. Et puis un peu de patience, le jeu, 2000 euros à gagner. 2000 euros, à tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La première de ce soir, on est ensemble jusqu'à 20h, première info pour briller au dîner avec Marie.
Oui, et on a beaucoup parlé cette semaine de l'inauguration du Paris-Nice avec Jean Castex, on a reparlé.
En première.
En première, 39 euros, ça m'a donné envie de vous raconter une autre histoire de train de nuit, l'incroyable chute nocturne d'un président de la République. Paul Deschanel, fraîchement élu en 1920, grimpe un soir de mai à bord d'un convoi spécial. À minuit, le train est en marche et pris d'une crise subite de somnambulisme. Oh. Il ouvre la fenêtre de son wagon, se penche et bascule sur la voie pyjama et en pantoufles. Il se relève à gare avant de trouver un garde-barrière qui passait par là. Alors, il ne sera pas blessé, mais cette chute ridicule lui vaudra des caricatures pendant toute la suite de son mandat et inspirera de nombreuses chansons au titre savoureux. Ainsi choit-il, j'ai ramassé le patron, ou encore la célèbre ritournelle pyjama présidentielle.
Il n'a pas abîmé son pyjama.
C'est génial.
Il n'a pas abîmé son pyjama.
On parle du président de la République quand même.
Hein. Et on n'a pas un extrait de j'ai ramassé le patron ?
J'ai évidemment cherché j'ai ramassé le patron, mais je me doute, Marie. Et je n'ai pas trouvé trace de cette chanson.
D'accord. Marie Mollet pour la première info pour briller au dîner ce soir.
Allume la lumière.
Quand un expert nous éclaire sur l'actualité, allume la lumière. Et ce soir, vous allumez la lumière autour du pass sanitaire.
Oui, parce qu'on l'a vu à l'Assemblée, au Sénat, dans l'opinion publique. La mise en place d'un pass sanitaire pour aller au stade, voyager, a suscité beaucoup de débats. Liberté de circuler librement en péril, obligation de se faire vacciner, protection de la vie privée.
On a donc voulu voir plus clair et on s'est demandé si en réalité ce concept de passe sanitaire pour voyager n'existait pas déjà et si certaines maladies ne devaient pas déjà être obligatoirement déclarées et surtout pourquoi une telle levée de bouclier autour du coronavirus.
On a donc contacté le professeur Yves Buisson, il est membre de l'Académie nationale de médecine et on lui a d'abord demandé si devoir montrer patte blanche pour voyager... C'était vraiment nouveau.
Bien sûr, ce n'est pas une nouveauté. C'est le règlement sanitaire international qui est promulgué par l'Organisation mondiale de la santé et pour laquelle il y a une obligation vaccinale qui concerne le vaccin anti-amaril, c'est-à-dire le vaccin contre la fièvre jaune, pour tous les pays d'Afrique subsaharienne et les pays d'Amérique du Sud, des zones où circule le virus de la fièvre jaune. Donc les pays qui sont dans ces zones sont en droit d'exiger des voyageurs la présentation d'un carnet de vaccination attestant qu'ils ont bien reçu le vaccin contre la fièvre jaune.
Donc on comprend que le passeport vaccinal ça existe déjà hein, pour certaines destinations. Le fait de devoir déclarer une maladie à la Sécu pour ce qu'on appelle le contact tracing, c'est nouveau ça ?
Vous l'avez bien dit. Eh ben non, ça aussi c'est du grand classique, écoutez le professeur Buisson.
Ah, des maladies à déclaration obligatoire, bon, il y en a une trentaine actuellement, donc la liste varie avec le temps, mais ce sont des maladies sous surveillance. Le fait qu'elles soient à déclaration obligatoire signifie que l'agence de surveillance des maladies infectieuses accorde une attention toute particulière pour les surveiller, pour voir si elles prennent de l'ampleur, si elles régressent, pour voir s'il faut mener des actions de santé publique afin de mieux les contrôler. Et la tuberculose, en particulier, la tuberculose fait l'objet, alors chaque fois qu'on détecte un cas de tuberculose, on doit faire une enquête en amont et en aval. Et donc ça, c'est vraiment, c'est un traçage obligatoire, qui est prévu par le Code de la santé publique pour justement éliminer les filières de contamination du bacille de Koch, du bacille de la tuberculose.
Donc en gros, rien de nouveau sous le soleil, mais alors pourquoi une telle levée de bouclier contre ce pass sanitaire Covid ?
Eh bien Marie, à en croire l'éminent membre de l'Académie de médecine, bah c'est un peu la nature humaine qui veut ça.
Je crois que ce n'est pas une exception. Je crois que chaque fois que ce type de décision a dû être prise, ça a déclenché la même levée de bouclier. S'il faut remonter à la première maladie infectieuse contre laquelle il a été décidé une obligation de vaccination, c'est la variole. Les premières obligations en Europe ont été décidées à la fin du 19e siècle. Et en France, ça a été très tardif, puisqu'il a fallu attendre 1902, parce qu'il y avait des antivaccinaux qui étaient extrêmement actifs, et c'est finalement Jules Ferry qui a surmonté ses réticences. Beaucoup plus récemment, on a vu l'opposition à Madame Buzyn, lorsqu'elle a voulu rendre obligatoires les 11 vaccins du nourrisson, qui étaient avant, il y a 3 seulement étaient obligatoires, ça a aussi déclenché une réaction des antivaccinaux, finalement une réaction passagère, parce que très rapidement on s'est rendu compte que, eh bien, que tous les bénéfices étaient constatés. Le contrôle de maladies comme la rougeole, la coqueluche, les méningites a été nettement renforcé.
Le pourquoi du comment de cette levée de bouclier, c'est Allume la lumière dans On défait le monde, on est ensemble jusqu'à 20h.
À suivre dans On défait le monde.
La deuxième info pour briller sur l'Eurovision. Le loser de la semaine et le jeu, enfin. Il est 19h35. Ah, tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
Chaque jour, Century 21, réseau d'agences immobilières, vous offre votre taxe foncière. Aujourd'hui, le gagnant est Monsieur Alain Bernière, qui a joué dans l'agence Century 21, Sud Habitat à Fréjus. Vous aussi, tentez votre chance dans l'une des 915 agences Century 21. Règlements et conditions d'agence est sur century21.fr.
On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La première, c'était avec Marie et le pyjama présidentiel. La deuxième de ce soir, c'est avec Laurent et on parle musique.
Oui, demain soir, c'est l'Eurovision. Et s'il vous plaît, arrêtons de croire que nous sommes des losers dignes de finir dans la rubrique de Marie Mollet. Non, il y a pire que la France. Amis norvégiens, vous nous sauvez. La Norvège a terminé à 11 reprises à la dernière place du concours. Bah, c'est un record. Le pays collectionne le plus de 0 points de l'histoire. Mais après, quand le pays veut gagner, bah ça ne sert à rien de se prendre la tête à réfléchir des heures à des paroles. Non, la Norvège remporte le concours en 1995 avec la chanson la plus courte des vainqueurs de l'Eurovision, 25 mots. Ah, autant faire simple, pourquoi se compliquer la vie ? Un refrain chanté une fois au début, une fois à la fin, le titre Nocturne du groupe Secret Garden.
Wow. Faut prévenir quand même.
Ça a gagné avec ça.
Et après, vous l'entendrez, c'est un solo de la violoniste. Mais, allez, un petit bonus. Le record, tout pays confondu, mais non gagnant du concours de l'Eurovision, est détenu par la Belgique en 1983. 11 mots pour la chanson Rendez-vous du groupe Pas de Deux. Alors, on arrête là.
11 mots.
11 mots. C'est génial.
Vous pouvez raconter, hein. Ah.
Deuxième info pour briller au dîner en ce vendredi soir, signé Laurent Tessier.
RTL. Le loser de la semaine.
À l'instant tant attendu, ouais, le loser, le grand perdant de la semaine. Et Marie, en tant que pilier, en tant que pierre angulaire du service politique de RTL, bah oui, il faut le dire, hein. Ce loser ne pouvait pas vous échapper, l'article 24 de la loi sécurité globale.
Et oui, vous savez, l'article 24, ça fait 6 mois qu'on vous bassine les oreilles avec ça.
Au cœur de la controverse, l'article 24.
La majorité se déchire autour de l'article 24.
L'article 24 qui a fait beaucoup, couler beaucoup d'encre.
Les fameux
fameux article 24.
Le fameux article 24 qui prévoyait d'interdire la diffusion d'images malveillantes de policiers dans l'exercice de leurs fonctions et qui a déchaîné les passions dans la rue, dans l'hémicycle, sur les plateaux de télé, un tollé partout. Cet article a créé l'un des plus grands pataquès politiques de l'année. Alors, à l'automne, tout le monde a voulu reprendre la plume pour l'améliorer. Les députés de la majorité...
Nous allons donc proposer une nouvelle écriture complète de l'article 24. Trop de questions subsistent.
Mais aussi le gouvernement qui a fait des concessions, accepté d'amender le texte et pour calmer les esprits, trouver une phrase choc, un élément de langage, comme on dit, répété en boucle.
Je ne suis pas fétichiste numéro, mais je suis en revanche fétichiste de la protection des policiers et des gendarmes.
Emmanuel Macron annonce donc son verdict. Il n'y a pas de dogme, pas de fétichisme sur l'article 24.
Eh oui, sexy l'article 24.
Fétichisme, hein. C'est ça.
Cyprien, je suis sûre que vous êtes fétichiste de l'article 24.
J'adore.
Bon, en tout cas, ça n'a pas suffi à éteindre le feu. Mais dans ces situations d'urgence, la République peut compter sur un groupe de valeureux élus pour voler à la rescousse de la République, les sénateurs.
Écoutez, nous, on va modifier l'article 24. Voilà, parce que cet article 24, c'était une vraie bombe juridique. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Nous allons réécrire, on va leur apprendre à ces ignares de députés, très sûrs d'eux, les sénateurs. Bon, si je résume, le gouvernement a réécrit, les députés ont réécrit, les sénateurs ont réécrit. Là, c'est plus un texte de loi, c'est un poème, cet article. Il doit être béton, inattaquable, sauf qu'hier, surprise du chef.
Le Conseil constitutionnel censure l'article 24 de la loi de sécurité globale.
Catastrophe, retoquer tout ce ramdam, toutes ces heures de débat pour rien du tout, du vent. Le pompon, c'est qu'à votre avis, qui a bien pu saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte ?
Que je saisirais moi-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24.
Eh oui, c'est Jeannot. Jean Castex lui-même qui a visiblement été un peu trop confiant. Énorme camouflet pour le gouvernement qui a fait ce qu'il fait toujours quand il se prend une claque.
Moi, je prends acte de la décision du Conseil constitutionnel.
Il prend acte, nous prenons acte tous ensemble. Moi, je suis fan, j'adore cette formule. Après tout, chacun son fétichisme.
C'était caviar, hein, ce loser for Marie Mollet.
C'est vrai
soir.
Que c'est un truc de fou quand on y réfléchit. C'est mon analyse politique aussi.
Oui, c'est bien ce petit édito.
Décidément, on va y avoir droit toutes les semaines à cette petite phrase-là.
Je crois qu'on est abonné, oui. 19h42.
Alors on va jouer ?
Ouais.
Y a pas un petit...
C'est un truc de fou hein, cette histoire. Bon allez.
Merci Brice.
Bon, ce soir, on vous fait un cadeau très très généreux.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Enfin, c'est surtout Monsieur Cadeau, Grégory Caranano, gars Carannoni.
Caranano.
On revient sur la grosse info de la semaine.
Non, ça va. Qui est très très généreux.
La semaine dernière, j'ai un peu galéré avec le nom du site quandlamer-tourisme.fr.
Ouais,
je le redis du coup. Oui, je sais, Brice. Du coup, cette semaine, j'ai choisi un cadeau en fonction du nom du site. Et c'est le site h&h.fr qui vous offre un cadeau extraordinaire. Et ce soir, on vous offre 2000 euros en bon d'achat à valoir sur le site h&h. Vous en avez marre de votre intérieur après avoir passé un an confiné chez vous ? Eh bien, on va refaire votre intérieur avec des meubles confortables. Généreux, un bon canapé pour écouter On défait le monde, par exemple. Changez d'ambiance et votre intérieur. Allez vous inspirer sur h&h.fr. H, la lettre H, et ET, évidemment, H, la lettre H encore.fr.
Bravo, formidable. Ouais,
petite question.
La fameuse question d'On défait le monde, un bon d'achat de 2000 euros, ça se mérite. On a allumé la lumière sur le sujet tout à l'heure. Comment s'appelle l'instrument créé par le gouvernement pour aller dans les stades, dans les concerts ? Est-ce que c'est A, le passe sanitaire, B, le passe-moi le sel, ou C, le passe-partout ? Le passe sanitaire, le passe-moi le sel.
Qui a bien pu penser à ces questions ?
Le passe-partout, on s'est mis à deux avec Brice,
oui,
on s'est appelé. Vous avez la bonne réponse.
C'est plus les réponses d'ailleurs, si je peux me permettre, qui sont d'avance.
Le passe sanitaire, le passe-moi le sel ou le passe-partout, vous avez la bonne réponse. 32-10, on tirera au sort parmi les bonnes réponses. 2000 euros chez H&H.
3-2-1-0 à partir de maintenant. Vous avez des grosses journées, Brice et Cyprien, pour préparer la question et les réponses.
C'est du travail, pardon, mais vous contribuez assez peu d'ailleurs, je trouve.
19h44.
On défait le monde sur RTL.
C'est l'heure du billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et qui a depuis disparu.
Et là, on ressort des tiroirs un vieux dossier. En 1999, il y a 22 ans, la France découvrait fièrement aux infos une révolution dans le secteur de l'énergie nucléaire.
L'EPR devrait être moins polluant pour l'environnement. Et puis surtout,
L'EPR devrait être plus sûr.
EPR, avenir du nucléaire, 1999. Donc finalement, en 2003, décision des pouvoirs publics d'investir dans ce nouveau type de réacteur.
Le gouvernement a fait le choix du nucléaire pour l'avenir. On parle de l'EPR, le réacteur troisième génération.
C'est parti, on y va, on met les moyens et donc...
En 2007, EDF démarre la construction du réacteur 3 de l'EPR de Flamanville. Il devrait être fini en 2012.
Eh oui, mais là ça va commencer à patiner sérieusement. Alors Brice, d'abord, entre nous là, avant de nous dire où en est l'EPR de Flamanville, c'est quoi au juste un EPR ?
Alors EPR déjà ça veut dire European Pressurized Reactor, c'est-à-dire un réacteur pressurisé européen, mais le nom était un peu ringard, donc ça a été changé et c'est devenu le réacteur de nouvelle génération, c'était un peu plus vendeur. En fait c'est un réacteur nucléaire qui est plus moderne, plus sécurisé, plus automatisé, donc il produit plus et surtout il est plus rentable. Et à l'intérieur en fait ça fonctionne comme un réacteur nucléaire classique, c'est le même principe avec de l'uranium, etc.
Bon ok, donc et celui de Flamanville, ça y est il chauffe ?
Non, le PR de Flamanville n'est toujours pas en service. En fait, il est en cours de validation de sécurité, si vous voulez. C'est-à-dire que en ce moment, il y a des experts qui passent pour essayer de voir si tout est OK pour le mettre en service. Mais il y a encore des problèmes. Écoutez Nicolas Goldberg, il est spécialiste des questions énergétiques chez Columbus Consulting.
Il y a des inspections de sécurité qui ne se passent pas aussi bien que prévu. Et donc, on va être bien sûr que toutes les soudures sont bien au niveau d'exigence requis, ce qui n'est pas le cas pour toutes les soudures. Et donc, EDF est encore en train de faire... les derniers travaux sur ce chantier pour pouvoir démarrer l'EPR, on espère, d'ici 2023-2024. Quand on l'a lancé en 2007, on s'est dit que c'est un chantier qui prendrait 5 ans, donc jusqu'en 2012, et que ça coûterait 3 milliards d'euros.
Finalement, le chantier va être livré avec 12 ans de retard et le montant de la facture n'est pas le 3 milliards annoncé, mais 19 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Alors, au-delà des erreurs industrielles, d'une mauvaise préparation du chantier, tout le monde semble d'accord autour de ça. Il y a eu aussi, vous savez, la catastrophe de Fukushima. Donc, il y a eu de nouvelles normes qui se sont imposées, qui ont ralenti le processus de construction. Bref, le cauchemar de Flamanville.
Brice, cet échec, il existe aussi à l'étranger ?
Ben oui, puisqu'à l'époque, Areva avait vendu un EPR à la Finlande. Le chantier a débuté en 2004, devait se terminer en 2009. Finalement, la mise en service aura lieu en octobre. C'est-à-dire que là aussi, il y a 12 ans de retard et des surcoûts qui se comptent en milliards d'euros.
Et donc là, maintenant, si on arrive à faire fonctionner l'EPR, c'est bon, on arrête les frais, c'est fini là.
Eh bien pas du tout, parce que figurez-vous que des EPR conçus par EDF et qui fonctionnent, eh bien il y en a, il y en a déjà. Alors il y en a un en Angleterre qui va démarrer en 2026 avec quelques mois de retard seulement pour l'instant, mais surtout en Chine, il y a deux EPR qui fonctionnent très bien, le premier depuis 2018, le second depuis 2020, et donc pour EDF et pour la France, c'est extrêmement positif, explication de Nicolas Goldberg.
Quand vous ratez quelque chose, soit vous dites, bon, j'apprends de mes erreurs et je continue pour m'améliorer, soit vous dites, je lâche complètement. Le choix qui a été fait, c'est de continuer pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement des EPR qui fonctionnent, il y en a deux en Chine, fait par EDF en partie. Pour EDF et pour la France, c'était le signe qu'il est possible de construire des réacteurs nucléaires en espérant à la fin que tous les déboires industriels soient derrière nous et que EDF ait appris pour ne pas les répéter.
EDF a donc appris de ses erreurs de Flamanville et il semble par exemple que les chantiers chinois aient été mieux préparés, donc mieux réalisés. Le tissu industriel nécessaire à la réalisation d'un tel ouvrage était mieux organisé. C'est ça qui a fait défaut énormément en France à Flamanville. Et donc ces deux succès redonnent une sorte de raison d'être à ces réacteurs.
Ça veut dire qu'il y a encore des projets ?
Absolument. Il y a la fin de la construction du réacteur en Angleterre. Et puis en Inde, il y a un projet de construire 6 EPR. Alors là, le rôle d'EDF, c'est la conception et la fourniture du matériel nécessaire. La mise en œuvre serait faite par les Indiens. Et puis il y a surtout la France. C'est-à-dire que EDF n'a pas du tout abandonné l'idée de faire un jour un EPR qui fonctionne sur notre sol. Et il y a 2 semaines, l'entreprise a remis un rapport à l'État français, un projet de stratégie énergétique pour la France dans les années à venir, dans lequel il est envisagé, au regard de ses enseignements, eh bien, la construction de 6 EPR sur notre sol. Alors, aucune décision, évidemment, ne sera prise avant la prochaine présidentielle. Et surtout, aucune décision ne sera prise tant que celui de Flamanville ne sera pas en service. Ouais. Il semblerait un peu baroque de lancer un nouveau projet alors que celui-là ne fonctionne pas. Donc voilà, la décision est renvoyée, on l'entendait, après 2023 ou 2024. Mais ça va finir par fonctionner.
Avec tout ce que ça a coûté en même temps. 19h49, billet retour. Brice Dugénie, grand reporter du service étranger de RTL. On défait le monde les 10 dernières minutes tout en direct avec la 3e info pour briller au dîner après ceci.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Déjà la troisième de ce soir, 19h50. Soyez bien les bienvenus si vous nous rejoignez. Troisième info pour briller au dîner avec Brice et ça concerne les Jeux Olympiques.
Oui, parce que avec la situation sanitaire, on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières semaines, encore ces derniers jours, avec la résurgence du Covid au Japon, il y a des rumeurs d'une possible annulation des JO de Tokyo. Alors c'est rarissime, évidemment, l'annulation des JO, c'est arrivé trois fois dans l'histoire, 1916, 1940 et 1944. C'est rare, et pourtant, si les JO de Tokyo étaient annulés cette année, eh bien ce serait la deuxième fois pour la ville de Tokyo, puisque en 1940, les JO d'été, qui ont été annulés évidemment à cause de la Deuxième Guerre mondiale, étaient déjà prévus dans la capitale japonaise.
C'est signé Brice.
Alors je vous rassure, il y a quand même 64 où Tokyo a eu des JO où tout s'est bien passé. Mais en tout cas, s'ils sont annulés, ce serait la deuxième fois pour la ville de Tokyo.
C'est bien noté, Brice Dugénie. 19h51.
Marche ou rêve.
Marche ou rêve, c'est quand on met en valeur vos idées, vos initiatives.
Et ce soir, Laurent, on prend des nouvelles d'un projet qu'on a suivi cette année et qui se concrétise enfin, et ça, ça nous fait plaisir. Pas de gaz, de gaz. Le 5 février, nous avions eu le plaisir de mettre en avant la comédie musicale Aquaville, le thème l'écologie, une aventure collective pour 19 adolescents qui viennent du 20e arrondissement de Paris, de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Et ça y est, le spectacle arrive, c'est la semaine prochaine, mercredi 26 mai, sur la scène du Casino de Paris pour deux représentations. Agathe de Menton, la fondatrice de l'association Du Soleil dans ma mémoire, est avec nous en studio. Bonsoir Agathe.
Bonsoir.
Bon, on est à 5 jours du concert, plus d'un an de préparation. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Alors, on est là, en grande pression, évidemment, la pression monte, mais c'est un bon stress. Effectivement, mercredi prochain, ce sont 19 adolescents qui vont faire la réouverture du Casino de Paris. Donc, c'est pas rien. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que la pression monte. Ils vont jouer donc effectivement la comédie musicale Aquaville, qui sensibilise à l'écologie. Et on a choisi un mercredi parce que c'est un spectacle familial. Et donc il y a une séance à 15h pour que les parents puissent amener leurs enfants, que les centres de loisirs organisent des sorties, et puis une séance à 18h30 aussi. On peut prendre les billets sur le site de la FNAC ou le site du Casino de Paris. Il reste encore quelques places, mais attention, ça se remplit vite. Et on est vraiment prêts, donc la pression monte, mais en fait, ils ont tellement répété pendant 18 mois, ils ont été tellement assidus, ils ont tellement travaillé avec leur coach qu'on arrive à un niveau de spectacle très très élevé.
Ils sont chauds, quoi.
Ils sont prêts, là.
Mais c'est-à-dire qu'en plus, il y a eu les confinements, il y a eu la fermeture des spectacles, des salles, etc. Donc, à un moment, vous avez eu peur que le projet aboutisse pas ?
On a reporté trois fois la date du spectacle. Et on avait tellement avancé qu'on a décidé de continuer. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver un jour ? Et au fur et à mesure, on devait répéter 10 mois, on a répété 18 mois. Ouais. Donc ça commence à être un peu long.
Même pour les enfants, je veux dire, ça doit être compliqué à gérer.
C'était un peu long pour tout le monde, mais au final, en ayant travaillé 18 mois, on se retrouve entre les mains avec un spectacle d'un très très haut niveau en fait. Et c'est grâce à l'équipe artistique aussi, que je remercie vraiment aujourd'hui, qui a coaché pendant 18 mois tous ces jeunes. Et qui a tiré vers le haut, très très haut, ce spectacle. Donc on a en fait un spectacle professionnel, avec des magnifiques costumes, avec un décor qui est conçu avec 14 000 ballons. Un décor en ballon, alors biodégradable quand même, les ballons, je précise. Et puis une mise en scène magnifique de Vanillatier. Voilà, moi je vous cache pas que la dernière fois que j'ai vu une générale, la dernière générale que j'ai vue, j'étais en pleurs. Parce que je m'attendais pas à ce niveau-là. Quand j'ai eu cette idée folle il y a deux ans de faire monter ses ados sur la scène du Casino de Paris, je pensais pas qu'on en arriverait là en fait.
On a une ado.
Et l'une des participantes, oui, Soukaina, est de nouveau en ligne avec nous. Bonsoir Soukaina.
Bonsoir.
Et je rappelle votre âge, 16 ans, votre rôle d'âme coquille, un personnage très extravagant. Pas trop de stress avant mercredi ?
Si je peux répondre à cette question, c'est que j'y pense jour et nuit. Ça fait deux semaines que je fais que de répéter les chorés chez moi le soir, c'est devenu une routine. Donc oui, un peu stressée. Donc, mais sinon, ça peut aller.
Est-ce que ça vous a fait changer, toute cette aventure ?
Ah mais oui, beaucoup, 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 beaucoup. On s'apprend à être soi-même et on se découvre des facettes qu'on n'aurait jamais cru avoir. Et moi, il y a ce rôle qui de base, ne me correspondait pas trop. Et là, ça m'a fait complètement sortir de moi, en fait. Donc, c'est incroyable.
On rappelle, Agathe, la représentation, mercredi 26 mai, les horaires.
15h et 18h30.
Et surtout, cette chanson qui va vous rentrer dans la tête. We're gonna save the world, make it last forever.
remercier d'ailleurs Rodi Julien qui a créé ce spectacle et qui nous a reçus très gentiment dans son studio d'enregistrement pour enregistrer toutes les chansons. Et donc on en a fait un disque parce que ça a atteint un tel niveau que voilà, on a sorti un disque, toutes les chansons sont enregistrées et seront en backup sur scène si jamais il y a un petit souci de track. Mais j'ai confiance en fait, ils ont tellement répété que j'ai pas peur. Voilà, je pense que ça va bien se passer.
Bravo pour tout ce que vous faites, ouais, Agathe, et bravo à bravo. Tous les adolescents. Et rendez-vous mercredi 26 mai au Casino de Paris.
19h56, on a une gagnante.
Sophie de Seine-et-Marne, bonsoir Sophie.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Alors comment ça s'appelle ce passe sanitaire, passe-partout, passe-plat pour aller au cinéma? Oh,
passe-moi le sel aussi.
Il vaut mieux l'appeler le passe sanitaire. C'est plus sérieux. Merci beaucoup.
Vous êtes tout dans le 7-7, Sophie, vous êtes où dans Seine-et-Marne?
Alors moi je suis à Emerainville.
Où ça, pardon?
Je suis à Emerainville.
D'accord.
Parce que Stéphane connaît bien
ça, vous avance.
Je connais bien le 7-7, mais là je situe 7-7. Pas. C'est près de quoi?
Alors, je vous entends hyper difficilement.
Bon, et vous avez gagné.
C'est génial. Ça va me faire un super cadeau pour ma fête qui est très bientôt, la Sainte-Sophie.
Ah bah oui.
Donc, c'est génial. Et puis, ça va me récompenser de cette année de Covid passée à l'hôpital ou parce que je suis infirmière. C'est génial.
Ah bah, on est super content.
Encore plus content de vous offrir le cadeau.
Le 7-7 et infirmière, c'est bonus.
C'est que du bonheur. Merci beaucoup. Et merci à RTL, dont je suis une grande, grande fan depuis bien avant ma naissance déjà, parce que je vous écoutais lorsque j'étais dans le ventre de ma maman.
2000 euros chez HCH pour vous, Sophie.
Génial.
C'est super.
Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Je vous souhaite un excellent week-end.
Vous aussi.
On l'arrête, Sophie, sinon on est encore là demain matin.
Ouais,
on
parce que vous êtes bien. Merci beaucoup.
C'était un bonheur. Merci beaucoup.
Salut
votre fidélité.
Bravo. Salut.
Vendredi prochain, toute l'équipe revient.
La semaine prochaine.
Même esprit.
Ciao. Même endroit, même heure.
On défait le monde.